J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans l'émission Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 26e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'autrice nordiste de naissance et iséroise de cœur Ophélie Cohen, dont le troisième roman Sorginac, est paru le 23 novembre 2024 aux éditions IFS et dans la collection Phénix Noir. Ophélie, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous.
Tu préfères le mot autrice, auteur, écrivaine ou romancière lorsqu'on te présente?
Alors moi je dis auteur, j'y tiens à vrai dire, dans la mesure où je suis policier et pas policière. Pour moi c'est une fonction, ça ne représente pas ma personne en fait, c'est une façon de faire. Donc je préfère auteur.
Bien. Quel rapport avais-tu avec l'écriture et la lecture lors de ton enfance et ton adolescence?
Alors c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, que ce soit l'un ou l'autre. J'ai toujours vu mes parents lire et j'ai toujours lu. Quand j'étais petite, je lisais beaucoup les Comtesses de Ségur en bibliothèque rose. Et c'est ce que je demandais à Noël d'ailleurs, je voulais un livre. Quant à l'écriture, c'est pareil. Je crois qu'à partir du moment où j'ai su écrire, je ne me suis plus arrêtée. Alors d'abord, j'écrivais mon prénom en miroir. J'ai toujours la capacité à écrire en miroir assez facilement, c'est rigolo d'ailleurs. Et puis, je mettais mes expressions en mots, c'est-à-dire qu'au lieu de verbaliser mes émotions, j'écrivais. Quand je faisais des bêtises, j'écrivais des lettres d'excuses à mes parents. Ça a vraiment été ma façon de m'exprimer dès que j'ai su écrire. Donc, ce sont deux choses qui font partie de ma vie depuis toujours.
Avant de vouloir entrer dans les forces de l'ordre, j'ai lu que tu voulais être journaliste. L'envie d'écrire était déjà là. Alors, pourquoi avoir changé d'envie?
Alors, c'est pas l'envie qui a changé, c'est le fait que j'ai redoublé ma seconde. Et j'avais un copain à l'époque qui m'a dit « Mais tu pourras jamais être journaliste à redoubler, c'est que t'es pas si bonne que ça en français. » Donc, il me dit « L'école de journalisme, c'est mort. » Et puis, à cette époque-là, j'avais mon papa qui était souvent en déplacement, qui était policier. Hein, il est à la retraite depuis quelques années maintenant, mais mon papa est policier. Et puis, je pense que j'ai choisi ce changement de voie pour me rapprocher de mon papa qui n'était pas très souvent là à cause de ses déplacements. Donc voilà, un changement d'orientation, mais toujours avec cette volonté de garder l'écrit pas trop loin, puisque j'ai passé les examens pour être chargée de communication dans la police nationale. Donc j'ai cette certification, ce qui me permettait de faire des articles sur notre intranet, par exemple.
Tu es officier de police judiciaire et tu connais bien ce monde que l'on raconte dans les romans dits de polar. Était-ce finalement un hasard si on te retrouvait à fréquenter les salons littéraires et devenir blogueuse sur les polars justement?
Alors je pense que j'ai fréquenté les salons polars parce que les amis que j'avais à l'époque fréquentaient beaucoup les salons polars, plus que les salons généralistes, donc j'ai mis les pieds dans le polar comme ça. Après au niveau de mes lectures, bien qu'il y ait eu un peu plus de polar, je suis quand même une lectrice assez éclectique. Je lisais un peu de tout, autant du Christian Jacques que du Maxime Chattam, donc tu vois, deux univers complètement différents. Après, c'est le hasard des rencontres qui ont fait que j'ai fréquenté les salons polars, que je me suis mise à écrire mes ressentis et que j'ai commencé à faire des chroniques, d'abord sur Facebook, puis pour le collectif polar Chronique de Nuit, puisque Geneviève m'avait à l'époque sondé pour que je fasse partie de ce collectif. Puis France 3, Île-de-France, avec Bob Garcia, avant de me lancer moi-même dans mon aventure littéraire, mais c'est vraiment des rencontres. C'est pas une volonté d'être plus milieu polar qu'autre chose. C'est vraiment le hasard des rencontres qui ont donné naissance à cette façon de bloguer et de fréquenter les salons polars.
Écrire une chronique sur les polars, c'est une chose. Écrire un roman, c'en est une autre. Comment s'est passé le passage à l'acte littéraire à proprement parler? C'est aussi une histoire de rencontre.
C'est aussi une histoire de rencontre, tu l'as parfaitement deviné. À force de fréquenter les salons polars, on connaît les auteurs plus ou moins bien quand tu les fais souvent. Et avec le temps, je suis devenue amie avec Alexis Aubenck, qui à l'époque écrivait beaucoup, même si aujourd'hui on le voit beaucoup moins. Et c'est Alexis qui m'a lancé en me disant « Mais tes chroniques sont bien, elles sont bien rédigées, t'as jamais pensé à écrire quelque chose à toi ?» et je lui ai envoyé le début de ce qui deviendrait Héloïse. Et après l'avoir lu, il m'a dit, tu t'arrêtes pas, je vais te mettre des coups de pied au cul, tu vas aller au bout de cette histoire. Donc j'écrivais un chapitre, je lui ai envoyé, on en discutait, et puis Héloïse s'est faite comme ça, petit à petit, au fil de nos échanges téléphoniques, et des coups de pied au cul qu'il me mettait pour que je continue et que je m'arrête pas, parce que c'était franchement pas facile.
En tant qu'officier de police, tu aurais pu écrire un roman policier, tu préfères raconter la vie des autres, celles et ceux que tu as croisés dans le cadre de ton travail, que ta propre vie, celle de policière.
C'est ça. Mais tu sais, il y a déjà beaucoup de policiers qui écrivent des polars et qui le font très bien, qui sont très ancrés dans la profession. Moi, j'avais envie de prendre un peu de hauteur et de raconter plus, comme tu le dis, les rencontres, plutôt que mon métier à moi, même si je glisse dans certains romans des cris du cœur auprès de la population et de mon administration. Je me mets davantage à la place des personnes que je rencontre plutôt que dans ma fonction de policière telle que je la vis au quotidien.
Comment se lance-t-on dans l'écriture d'un roman la première fois ? Avec qui as-tu partagé tes inquiétudes, tes questionnements ?
Héloïse, avec personne au début, au tout début. Hein. Tout le temps de l'écriture, uniquement avec Alexis. Je ne connaissais pas encore mon compagnon. C'est après qu'est venue l'aide de mon compagnon. Donc, Héloïse, ça a été un exercice vraiment solitaire et partagé avec mon coach. Mais en aucun cas, d'autres personnes à côté à qui je faisais lire l'avancée de mes travaux. J'ai mes parents qui me disaient « t'écris encore », mon fils qui me disait « t'écris encore ». Ben oui, j'ai essayé d'aller au bout de cette histoire. Mais ce roman-là, il s'est vraiment fait, en plus, à une période de ma vie qui était assez compliquée. Mon fils venait de partir au Pays Basque, donc c'était pas simple. Donc voilà, celui-là était vraiment un roman qui, entre le moment où j'ai commencé à l'écrire et le moment où il est sorti, il s'est passé presque 3 ans. Donc il y a eu vraiment un délai assez long. Et puis il y a eu la rencontre avec Xavier qui m'a permis d'aller plus vite, entre guillemets, puisque c'est lui qui a envoyé le manuscrit aux maisons d'édition. Et c'est lui qui me soutient tous les jours dans cette aventure maintenant.
C'est Xavier Massé.
Xavier Massé.
Pour ceux qui ne sauraient pas. Avant la sortie de ton premier roman, tu fais partie des 18 autrices et auteurs dans un livre 100% thriller, mais pas que, tome 1. Comment se retrouve-t-on dans ce recueil de nouvelles alors qu'on n'a pas encore sorti le moindre livre ?
Eh bien, bonne question. Écoute, c'est Nadine Doyel, qui est l'organisatrice d'un salon en région parisienne, qui m'avait sollicité pour que j'écrive une nouvelle pour ce recueil, qui est vendu pour financer l'organisation de son salon, qui se passe, alors de mémoire, en Seine-et-Marne, que je ne me trompe pas de département, au nord de la région parisienne. Et c'est elle qui me l'a demandé. Alors, c'est pareil, ça fait partie des personnes que je croisais beaucoup quand je faisais du blogging, si on le dit comme ça, parce que j'étais en région parisienne à l'époque. Donc, tu sais, c'est un petit milieu, hein, tout le monde se croise. Et elle est venue voilà, me solliciter pour ça. Après, il y avait eu aussi le Cadavre Exquis avec le collectif Polar qui avait été publié en auto-édition. Voilà, c'est des petits débuts, on va dire, d'aventure d'auteur.
Quand on se décide d'écrire un premier roman, on cherche un moyen de l'éditer. Tu te retrouves chez IFS, une maison d'édition belge. Être d'origine nordiste, avoir fréquenté des salons et avoir écrit des articles sur les polars, ça peut aider ?
Je ne suis pas persuadée que ça puisse aider. Non, je ne pense pas. Ça t'aide à avoir les contacts en tout cas, puisque il y a des maisons d'édition pour lesquelles j'avais déjà des contacts et d'autres non. C'était le cas d'IFS, puisque je connaissais les éditeurs. Disons que ça te garantit, entre guillemets, et encore pas toujours, la chance d'être lu. Après, si le roman n'est pas bon, il n'est pas publié, tout simplement. Là, en l'espèce, les garçons ont eu un coup de cœur pour Héloïse. Et voilà, ils ont donné la chance à ce roman de voir le jour. Et je les en remercie encore aujourd'hui, parce que sans eux, je n'en serais pas au troisième. Je pense que j'aurais baissé les bras. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit le fait d'avoir été blogueuse qui m'ait permis d'être publiée. Ça m'a permis d'avoir les bons contacts, en tout cas, pour être lu. Ce qui est déjà un premier pas.
Et nordiste non plus ?
Non, c'est vraiment le hasard, je crois. Alors, pour le coup, je pense que c'est vraiment un hasard. Après, je les ai rencontrés en région parisienne, je ne les ai même pas rencontrés dans le Nord. Si je les avais rencontrés sur un salon du Nord, je leur ai dit oui, sans doute. mais il me semble que la première fois que je les ai vus, c'était pas dans le Nord. Après, on a des affinités, je pense qu'on a une façon de penser aussi qui est assez proche. On a une culture qui est assez proche aussi, donc forcément, on se trouve des points communs.
Ton premier roman, Héloïse, est paru le 13 octobre 2021 chez IFS et dans la collection Phénix Noir, un personnage principal féminin. C'est une évidence pour toi de raconter des histoires de femmes ?
Je crois que je ne me suis pas posé la question. Héloïse, elle est née complètement par hasard. En fait, au départ, ce roman, ça ne devait pas du tout être ce qu'il est aujourd'hui. Je voulais en faire un thriller costaud. Je voulais qu'elle tue des hommes, Héloïse. Et en fait, pas du tout. Je me suis complètement éloignée du sujet du départ. Alors, est-ce que je veux essentiellement mettre des femmes en avant? Je sais pas. Dans le deuxième, c'est plus les hommes. Donc non, je pense que j'ai envie de mettre l'humain au centre de mes romans. Alors, il se trouve que là, à l'heure actuelle, c'est plutôt des messages plus féminins que masculins. Mais peut-être que l'histoire avec un grand H aussi a oublié certaines femmes et que j'ai envie de les mettre en avant. Je saurais pas te dire, je sais pas si c'est une évidence, je suis pas convaincue que demain j'écrirai pas l'histoire d'un homme.
Héloïse donc est un roman très noir qui parle de violence et de ses conséquences sur la vie d'une femme. Ce personnage est issu de ton imagination où tu racontes ce que sont ou ce que pourrait être la vie de toutes ces femmes que tu as rencontrées dans le cas de ton travail et plus particulièrement à la Brigade des Mœurs.
Alors je dirais de tous les enfants. Ça aurait pu être l'histoire d'un garçon et dévié sur l'histoire d'un garçon et j'aurais commencé par tous les hommes ont une histoire, je pense. Là, il s'est trouvé que c'était une jeune fille, mais c'est surtout un roman hommage aux enfants que j'ai pu croiser dans ma carrière à la Brigade des Mineurs, ouais, des enfants qui n'ont vraiment pas de chance dans la vie, qui débutent très très mal et à qui on ne tend pas forcément la main. Des enfants qui ont besoin de rencontrer les bonnes personnes et de faire les bons choix, mais est-ce qu'on peut y arriver quand on a si mal commencé? C'est plus là la question d'Héloïse qu'autre chose, je pense. Après, il y a toujours cette part de choses que toi, tu imagines en écrivant et les lecteurs vont pas voir ça, ils vont voir tout autre chose, des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et à eux, ça leur parle d'une manière différente. Donc je pense que j'aurais beau raconter mon roman en large et en travers et raconter ce que moi j'ai voulu y mettre, on y verra toujours d'autres choses.
Ton premier roman, Héloïse, a retenu l'attention du public et des blogueuses et a remporté le prix Coup de cœur Noir Charbon 2021. Pour un premier roman, c'était une surprise pour toi?
Une surprise inattendue, je crois que je me souviendrai toujours de cette annonce. Je m'y attendais pas du tout, Héloïse avait 2 mois. C'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, j'étais blogueuse avant, donc on sait qu'on est attendu au tournant par le monde des blogueurs qui se posent la question justement de comment a-t-elle fait pour être publiée, est-ce qu'on a publié parce qu'elle connaissait du monde ou pas. C'était aussi pour moi une récompense de dire voilà, j'ai pas été publiée par hasard, j'ai pas été publiée parce que j'étais blogueuse, j'ai été publiée parce que ce roman en vaut la peine. Et ça, c'était important. Donc oui, ça a été génial. Ça a été génial, ce prix. Et il a forcément une saveur particulière.
Tu ne t'es pas arrêté en si bon chemin, puisque un an et demi plus tard, le 10 avril 2023, toujours chez IFS, est paru ton deuxième roman, Suspicion, qui se rapproche du polar sans quitter le roman noir pour autant. Alors après les violences faites aux femmes et les violences familiales avec Nathalie, brigadier chef à la brigade des mineurs qui mène l'enquête, encore un sujet qui t'a marqué en tant que policière au point d'en écrire une histoire?
Ah oui, celui-là, c'est vraiment un cri du cœur. J'avais vraiment, vraiment besoin d'alerter sur, je ne peux pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, mais d'alerter les parents qui divorcent sur le fait de ne pas utiliser leurs enfants comme des armes, de rappeler que quand on fait des enfants, c'est parce qu'on s'aime en général, c'est pas par hasard, et que si on ne s'aime plus en tant qu'adulte, on doit protéger nos enfants. C'était parler d'un sujet qui est encore tabou, l'aliénation parentale, puisque ça reste encore compliqué de le prouver aujourd'hui. Il y a les détracteurs de l'aliénation parentale et il y a les défenseurs, entre guillemets, de l'aliénation parentale. Mais voilà, c'était dire, nous, policiers, on rencontre au quotidien des vraies victimes pour qui on a besoin de temps. Ne nous fabriquez pas d'autres victimes qui le sont pour un intérêt quelconque. C'était un peu ça, la base de ce roman. Et puis, parler aussi de mon métier de policier, pour le coup, de manière plus profonde. Pas juste un enquêteur alcoolique, divorcé ou le genre de cliché qu'on peut voir. Mais vraiment avoir mon regard de policier, bien dans ses pattes, bien dans sa vie. Même si Nathalie n'est pas moi, elle est forcément une part de moi. Donc c'était être au plus près de la réalité et alerter, voilà, sur ce que je voyais et que je vois encore et qui me fend le cœur. Ces enfants, c'est quelque chose qui me révolte profondément. Et ce roman-là en particulier m'a permis de crier au monde, voilà, attention, attention.
Le succès est toujours au rendez-vous avec le prix 100% Polar de Saint-Chef 2024. Et ta présence à de nombreux salons du Polar. Alors comment vit-on cette reconnaissance tant du public que des professionnels?
Moi, tu as toujours une part de syndrome de l'imposteur. Je pense que même si ça commence à aller mieux, je l'ai toujours. Je me demande parfois comment j'en suis arrivée là et est-ce que je mérite ça? Parce que les rencontres avec les lecteurs sont juste... c'est du concentré de bonheur en fait. Je mène de front deux métiers, mon métier de policier et ce métier d'auteur que je considère plus comme une passion qu'un métier. Ça prend beaucoup de temps, ça fatigue énormément, mais quand on fait des rencontres en salon, que les lecteurs viennent à nous et qu'on échange, je sais pourquoi je fais ça, pourquoi je continue à me fatiguer autant. C'est partager ces histoires et avoir ces retours de lecteurs, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose qui me nourrit énormément. Donc même si j'ai toujours cette espèce de sensation de ne pas être forcément à ma place, on en devient addict quand même, on a envie que ça continue, on n'a pas envie que ça s'arrête, on a envie de continuer à rencontrer des personnes qui vont me dire, alors dans mon cas, hein, j'ai adoré Suspicion pour telle et telle raison, ça m'a parlé, j'ai rencontré des associations de papas géniales, notamment les papas du Rhône qui sont menés par Maxime Bidjobert, qui sont des papas qui se battent au quotidien pour la garde alternée. Les romans, c'est ça, c'est toutes ces rencontres, tu vois, j'en parle, alors vous ne le voyez pas, mais j'en ai des frissons. Tout ça, c'est juste magique. Alors même si parfois on ne se sent pas à sa place, on a quand même beaucoup de mal à s'en passer.
Un an et demi après la sortie de ton second roman Suspicion, tu remets le couvert avec la parution le 12 novembre 2024 de ton troisième roman Sorginac, encore et toujours chez SIFS. 18 mois entre chaque roman, c'est un choix ou c'est un hasard ?
C'est un peu les deux. Un peu les deux parce que j'aime que le livre ait le temps de vivre et puis j'écris pas très très vite. Comme j'ai mon métier qui me prend beaucoup de temps et un changement de poste qui est intervenu il y a un an et demi, c'est moins de temps pour écrire. Et puis oui, ça laisse le temps au livre de vivre. Donc là, le troisième vient de sortir, le quatrième n'est pas encore écrit. Moi, j'ai besoin de ces temps aussi, de ces temps plus ou moins longs pour construire mes histoires et puis pour me remettre sur pied aussi, parce qu'entre deux, comme je disais, c'est fatigant. Donc il y a un peu des deux. Il y a la volonté de ne pas me presser et puis des hasards de calendrier.
Sans trop en dévoiler l'intrigue, peux-tu nous raconter l'histoire de ces Sorginac, sorcières en basque ?
Alors, mes Sorginac, ce sont en 2004 cinq femmes, dont Maïder, qui est l'aînée de la dernière génération, qui est une femme très libre et qui est la seule à vouloir quitter le clan de sorcières qu'elle forme toutes depuis des générations, et elle va habiter à Bayonne. Elle veut sa liberté. Elle en a un peu marre qu'on lui rabatte les oreilles avec... les histoires d'incantations et de femmes qui sont uniques. Mais comme elle aime ces femmes, elle retourne régulièrement dans sa famille et un soir de solstice d'hiver, elle disparaît. Et on va ensuite repartir un an en arrière pour essayer de savoir ce qui s'est passé, apprendre à connaître Maïder, apprendre à connaître son clan, et puis découvrir ce qui s'est passé en 1609 sur ces terres basques, puisqu'elle a eu lieu à côté de Saint-Pé-sur-Nivelle et à Saint-Pé-sur-Nivelle, la plus grande chasse aux sorcières qu'il y a eu en France à la Renaissance. Donc c'est un livre... qui parle de féminisme, forcément, qui parle des vraies sorcières, pas celles qui ont des pouvoirs magiques, mais celles qui, à l'époque, étaient sages-femmes, celles qui soignaient les malades de la peste, celles qui étaient là pour écouter. Donc ces sorcières-là, d'antan, c'est leur histoire à elles, c'est l'histoire de ce Pays basque que j'aime profondément, c'est l'histoire des chasses aux sorcières qui perdurent aussi aujourd'hui, parce que pour moi, elles existent toujours, il n'y a plus de bûcher comme avant, mais on n'a encore pas le droit d'être différent, de penser librement, d'être qui on a envie d'être sans être pointé du doigt. On n'a pas le droit d'exprimer quelque chose de différent. Je pense à plein de choses, hein, mais dès qu'on exprime un avis différent aujourd'hui, c'est encore compliqué. On est encore souvent pointé du doigt. Donc ce roman-là, c'est un peu tout ça. C'est oui, certains romans, j'aime à le dire féminin, mais pas féministe. C'est un roman qui concentre beaucoup de mes valeurs et j'ai essayé d'y faire voyager le lecteur aussi sur les terres basques que j'aime tant.
Sorginac est un roman un peu à part dans ta bibliographie puisqu'il n'a pas été inspiré par ton métier de policier mais par un voyage au Pays Basque. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée de traiter du sujet ô combien délicat des femmes que l'on a appelées sorcières ?
Alors il y a deux choses. Il y a cette histoire basque que j'évoquais et ce qui s'est passé en 1609 en France mais il y a aussi en Espagne en 1610, donc sur des époques très proches. Et puis j'ai lu aussi un essai de Mona Chollet qui s'appelle « Sorcière, le pouvoir invaincu des femmes » où elle y traite de l'image de la sorcière dans la société au travers des âges, vraiment l'image sociétale. Une femme qui ne veut pas d'enfants, qui est vieille fille, bien souvent on la compare à une sorcière. Ça c'est ce genre de choses. Et j'ai voulu marier les deux, ce qu'elle disait, des choses auxquelles j'adhérais profondément, et la vraie histoire de ces Sorginac du Pays Basque, qui se rapprochait aussi de ce que Mona Chollet voulait évoquer. J'ai construit une histoire autour de tout ça en y passant mes messages à moi et ce que moi j'avais envie d'y mettre aussi.
On appelait sorcières ces femmes qui faisaient peur aux hommes et aux religions, tout ça parce qu'elles ne rentraient pas dans la norme de ce que l'on attendait d'elles. Elles étaient féministes avant l'heure.
C'est ça, complètement. Complètement, elles voulaient juste vivre librement. Pour moi, le féminisme, c'est pas un gros mot, c'est vouloir être à égal avec les hommes. C'est juste ça pour moi le combat du féminisme. Il n'est pas dans les mots, comme tu l'as compris tout à l'heure, je suis écrivain, je suis auteur, je ne suis pas autrice ni écrivaine. Pour moi le combat du féminisme, c'est pas ça. C'est d'être considérée en tant que femme qui écrit, au même titre que mes collègues masculins qui écrivent. Tout simplement. C'est pas mettre un nom, mettre un E à la fin de quelque chose. C'est mener ce combat au quotidien pour qu'on soit perçu de la même façon, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, qu'on soit considéré comme un individu et pas défini par notre genre. C'est vraiment ça pour moi le combat aujourd'hui. Et avec ce roman, j'espère que j'ai réussi à attirer un peu l'attention là-dessus aussi.
Dans tout le Pays Basque, il existe de nombreux lieux liés aux sorcières. Pour écrire Sorginac, tu as suivi leurs pas, tu as rencontré des Sorginac?
Alors, j'ai pas rencontré des Sorginac, mais j'ai rencontré Julien. Julien, c'est un jeune homme du Pays Basque qui a grandi avec toutes ses légendes et qui a construit pas à pas sur un autre chemin qu'on appelle la Charreta, c'est le chemin du cheval bleu, soit entre Sarre, Saint-Pé-sur-Nivelles ou Garamourdi. Voilà, c'est un petit chemin qui sillonne au travers des montagnes. Lui, il a créé une marche entre le village de Sarre et le village de Zugaramourdi, où il y a eu une chasse aux sorcières. Zugaramourdi est en Espagne, et il y a des grottes magnifiques. Et Julien a construit un chemin, qui est donc une randonnée, qui fait 3h30 à peu près. Le nombre de kilomètres, je ne sais plus, mais tout au long de la randonnée, il raconte. Il raconte son enfance, il raconte ce que sa grand-mère lui racontait sur les sorcières. Il raconte la vraie histoire des sorcières au Pays Basque, mais aussi en Espagne. Donc j'ai fait cette marche deux fois et deux fois, j'ai quitté pendant un instant notre monde, celui où on a les pieds bien ancrés, pour suivre Julien dans le sien. Et c'était des moments suspendus et magiques. J'ai lu beaucoup aussi, j'ai regardé beaucoup de vidéos que Julien avait fait pendant le Covid justement. Donc oui, je suis allée sur place, j'ai rencontré des gens, j'ai beaucoup échangé. Après, je n'ai pas eu cette chance de rencontrer de vraies Sorginac. Je pense qu'elles se cachent encore. J'espère que j'aurai l'occasion d'en rencontrer sous peu, que je dois retourner au Pays Basque l'année prochaine, et que l'écriture de ce roman me permet de rencontrer d'autres personnes qui depuis l'ont lu et qui me proposent justement d'aller à la rencontre des sorcières et notamment d'aller visiter le château de Saint-Pé sur Nivelles qui est interdit au public. Donc d'y aller en backstage, en visite guidée.
L'histoire de ces Sorginac n'a été véritablement découverte qu'au début du XXe siècle, d'après ce que j'ai lu. C'est pour des raisons religieuses?
Non, je pense que les vraies raisons qui étaient plutôt économiques... À l'époque, elles ont été découvertes parce que les historiens creusent encore sur ce qui s'est passé. Je pense pas que ce soit... À l'époque de la Renaissance, il y avait bien sûr cette christianisation, mais il n'y avait pas que ça. Et on se rend compte que la chasse aux sorcières en 1609, les intérêts, c'est plutôt la frontière entre l'Espagne et la France. Et en termes d'économie, c'était la chasse aux baleines à Terre-Neuve et les peaux échangées avec les Indiens en Amérique du Nord. Donc c'est plutôt des raisons politiques et économiques. Plus que religieuse, on est assez loin quand même des guerres de religion. Pour autant, le juge de l'Ancre, qui est allé en 1609 sur place, a utilisé la religion pour chasser ses sorcières. Lui, qui était un religieux profond aussi, ne supportait pas qu'on puisse marier le catholicisme avec les religions païennes ou les croyances païennes, en tout cas des Basques. Imagine, il arrivait dans un pays, une province française, où on ne parlait pas le français, on parlait l'euskara, donc le basque. C'est les femmes qui faisaient tout et qui géraient les affaires de la vie courante, ce qui n'était pas non plus commun en France, mais parce que les hommes étaient ou en pêche ou sur les hauteurs avec les moutons. Donc voilà, pour lui, ça a été de l'encre. Ça a été un choc culturel et il a pris en grippe ces femmes. Mais je pense qu'il était déjà assez misogyne, ce monsieur, avant d'arriver sur la côte basque.
On parle du Pays Basque, il y a aussi la langue basque avec ses X, hein, pas toujours facile à prononcer.
Oui.
Et ces prénoms qui ne sont pour nous ni masculins ni féminins, sans parler des lieux et du vocabulaire basque. Alors, ça a été facile pour une ch'ti du Nord comme toi d'écrire l'euskara, la langue basque, sans trop perdre les lectrices et les lecteurs?
Non, ça n'a pas été simple. Et en même temps, je ne voulais pas m'en passer. Ça a fait l'objet de discussions aussi avec mon éditeur, hein, ou mes bêta-lecteurs, où on me dit mais les prénoms basques, c'est un peu dur. Et en même temps, si je choisissais des prénoms plus courants, je perdais cette authenticité et ce côté régional qu'il y a dans ce roman quand même, parce qu'il est vraiment ancré dans ces terres basques et dans leur culture. Et je me suis dit, si je change les prénoms pour avoir des prénoms plus classiques, je vais perdre ce côté authentique. Quand tu vas au Pays Basque, et j'espère que tu iras si tu n'y es pas encore allé et que ça donnera aux auditeurs envie d'y aller, tu es vraiment immergé dans leur culture. Quand tu vas dans les magasins, tu dis Milashker pour dire merci, tu dis adieu pour dire au revoir. Et ça vient naturellement. Et moi, plus je vais au Pays Basque, plus j'utilise ces mots-là pour dire, voilà, j'aime cette région et donc j'en adopte certaines particularités. Je me voyais pas ne pas le mettre dans son roman au risque de perdre justement ce côté authentique. Alors c'était un tout double, hein. Soit je perds le lecteur, soit il m'accompagne. Pour l'instant, je n'ai que des lecteurs qui avaient des débuts parfois difficiles pour s'habituer au prénom. pour l'instant, ils ont tous envie d'aller au Pays Basque, et ça, c'est une bonne chose.
Avec Héloïse, donc, tu parlais de roman noir. Ex Suspicion, c'était un mélange de roman noir et de polar. Avec Sorginac, tu parles de thriller. C'est une suite, une évolution logique dans ton envie d'écriture?
Je ne sais pas si c'est une suite logique, c'est une mise en danger. Déjà parce que quand tu fais les salons et que tu expliques aux gens c'est un roman noir, c'est un polar, la frontière n'est pas toujours aisée à définir, notamment pour les lecteurs. Et je m'étais dit, le troisième, il sera plus thriller parce que c'est plus facile à expliquer. Ça rentre plus facilement dans la case, entre guillemets, attendue par certains lecteurs. Donc c'était ce challenge-là, écrire un thriller. Encore une fois, je n'ai pas réussi à faire exactement ce que je voulais initialement, c'est-à-dire que finalement, ce n'est pas un vrai thriller non plus. Mais je me suis mise en danger quand même. C'est écrit à la troisième personne, pas à la première, contrairement aux deux autres. On est vraiment sur du passé simple. J'ai des mélanges, j'ai beaucoup de personnages, ce qui n'était pas forcément vrai dans les deux précédents non plus. Donc il y a eu une vraie mutation, mais c'est autant pour les lecteurs que pour me prouver à moi que j'en étais capable de ce changement de style. C'est une évolution normale, je sais pas. C'est en tout cas une évolution. Après, je pense pas que je ferai du façon Sorginac pour le quatrième. Ce sera plutôt un façon Héloïse, je pense. En tout cas, pour l'instant, il en prend le chemin. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, comme depuis toujours, je crois, en France, il faut mettre les choses dans des cases et il faut mettre un nom sur les choses. Donc s'il faut mettre un nom, ouais, on dira roman noir pour le premier, polar pour le deuxième, thriller pour le troisième. Mais in fine, aucun des trois ne rentre dans ces cases-là. Ils ont leur case à eux. Et puis on s'ennuie, quand on a fait le tour d'une case, on fait quoi après?
Tu fais aussi partie des louves du polar avec les talenteuses. Ben, elles sont tellement nombreuses. Christelle Duchamp, Magali Collet, Cécile Gabanac, Marlène Charine, Cécile de Roigny, Sandrine Deton, Petronille Rostagna, Clarence Pitts, Max Monneuet, Céline Dangean, Johanna Gustafsson, Anouk Schutterberg ou Rosalie Louis. Elles sont très nombreuses. Le but est de mettre en valeur votre travail et le polar féminin en général, souvent en manque de visibilité dans les rayons des libraires et des enseignes culturelles par rapport à leurs semblables masculins. Vous arrivez à faire bouger les choses?
Difficilement. C'est très, très difficile. Alors, je dirais que pour les copines qui sont dans des très grosses maisons d'édition, ça commence à bouger un petit peu, parce qu'il y a le poids commercial de la maison d'édition derrière. Pour nous, les plus petites, c'est plus compliqué, le changement n'est pas trop visible. Je pense que cette question-là, c'est pas à nous qu'il faut la poser. Le pourquoi on n'arrive pas à nous à être vivantes dans les rayons des librairies de la même manière que nos confrères ou que nos consoeurs d'Europe du Nord, hein, ou des pays anglo-saxons, qu'on voit plus que les autrices françaises. Je pense que c'est vraiment au milieu du livre et à ceux qui en tiennent les rênes qu'il faut poser cette question. Aux libraires, aux commerciaux, aux éditeurs, qui la plupart du temps sont des éditrices. Pourquoi on a plus de mal à défendre une femme qu'un homme dans ce milieu-là, alors que leurs écrits ne sont pas moins bons? Tu sais, j'ai pas la réponse à cette question, et plus je me la pose, moins j'en l'ai de toute façon la réponse. Je pense que c'est, comme beaucoup de choses, ça reste un art qui est commercial et commercialisé, et que du coup, les ficelles, nous, on peut pas les tirer parce qu'on les comprend pas. On ne sait pas d'où vient ce problème-là. Donc notre combat, je pense qu'il n'est pas là d'être fini. On espérait que ça changerait les choses peut-être un peu plus vite que ça. C'est long, je pense que ça le sera encore et que le collectif n'est pas prêt de disparaître.
Est-ce que tu as encore le temps de lire les livres des autres et ceux de Xavier Massé en particulier?
Alors, ceux de Xavier, toujours. Mais j'ai beaucoup moins de temps. Lectrice, je lisais une centaine de livres par an parce que voilà, je m'abreuvais de lecture en permanence. J'étais très peu télé. Et puis, j'ai eu toute l'époque où mon fils était avec moi une semaine sur deux avec son papa. Donc, j'avais beaucoup de temps pour moi. La vie de famille fait que j'ai beaucoup moins de temps pour moi aujourd'hui. Donc, je lis moins, j'écris plus, je passe plus de temps en famille. Donc, voilà, je continue à lire des hommes et des femmes. Et je pense que j'ai toujours... un livre d'avance sur une femme maintenant que sur un homme, mais moi la première, hein, en tant que lectrice, je lisais plus souvent les hommes que les femmes. Mais voilà, je continue à lire et je suis, pour tout te dire, actuellement dans la maison au sortilège, qui n'est pas d'une autrice française, mais qui parle de sorcières. Donc voilà, c'est une lectrice qui m'en a parlé à son encravienne, mais j'étais curieuse de lire ce roman, donc voilà, j'enfreins toutes mes règles. Je lis une autrice étrangère et un sujet sur la magie.
Bien. Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicaces. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les quatrièmes de couverture.
quatrième de couverture. Eh bien, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Ophélie, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
Mon dernier coup de cœur littéraire. C'est dur, comme je lis beaucoup moins. mon dernier, je dirais Clarence Pitts. Voilà, Les Enfants du Serpent.
Et pas uniquement parce que c'est une bonne amie à toi et qui est dans la même maison d'édition. Hein.
Non. Alors, je tiens à préciser que Clarence est multi-primée avec ce roman cette année. Elle a reçu pas moins de 6 prix, je crois, pour ce roman cette année. Mm-hmm. Non, c'est vraiment... autant, les précédents, et notamment Ineffaçable, j'ai un peu moins accroché. Autant, celui-là, il est vraiment magnifique.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman de Petroni Rostagna, Ton dernier souffle, aux éditions du 1-2-3, le roman de Clémence Michalon, Une locataire si discrète, aux éditions Fayard, les romans de Liam McAllister, Les jours qui viendront et Je viendrai sur tes pas, aux éditions du 123, le livre de Nadège Vézina, Le service public empêché, aux éditions Presse universitaire de France, le roman de Frédéric Ernotte, C'est dans la boîte, aux éditions M+, le roman de Franck Mancuso, Le passeur, aux éditions Récamier, le roman de Mathias Köping, Cartel 1011, Les bâtisseurs, aux éditions Gallimard, le roman de Maxime Chatham, Prime Time, aux éditions Albin Michel, le roman de Romain Slocombe, Sadorski chez le docteur Satan, aux éditions Robert Laffont, et le livre de Salomé Saké, Résister, aux éditions Payot et Rivage. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces, Ophélie, as-tu des rencontres et séances de dédicaces dans la région proche à annoncer ?
Alors, le plus proche, ce sera le 18 janvier à la FNAC de Grenoble. Donc, ce sera le lieu le plus proche. Après, je vais être beaucoup à droite, à gauche et ailleurs en France. Voilà, dans la région, 18 janvier à Grenoble.
Eh bien, Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Ophélie Cohen, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci à toi, Michel, et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés.
Et aux auditrices.
Et aux auditrices.
On les oublie toujours. Eh oui, hein, ça passe aussi par là.
Rappelons
que le ton troisième roman, Sorginac, est paru le 12 novembre 2024 aux éditions IFS et dans la collection Phénix Noir. On peut se le procurer où, sans oublier les deux premiers romans, Héloïse et Suspicion ?
Eh bien, partout. Dans n'importe quelle librairie, sur n'importe quelle plateforme, et s'il n'est pas physiquement présent chez votre libraire, vous pouvez lui commander.
On peut suivre ton actualité sur Internet via les inévitables réseaux sociaux ?
Tout à fait. Bah oui, on n'a pas le choix. C'est un outil de communication qu'on ne peut pas négliger.
Exactement.
Sous mon nom et mon prénom, ce sont des profils publics pour cela.
Le prochain invité de Roman de Gare, le jeudi 9 janvier 2025, sera la romancière rionaxienne Sylvie Julien Railleri. Elle nous présentera son recueil Louise et autres nouvelles d'elle, paru le 22 mars 2024 aux éditions de La Belle Étoile. Le destin de quatre femmes qui s'engagent à chaque fois dans une aventure, la littérature, la passion amoureuse, la maternité ou la célébrité, sans jamais pourtant être tout à fait maîtresse de ce que la vie leur réserve. Ophélie, bonne chance pour la suite de tes aventures de romancière.
Merci beaucoup, Michel.
Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
À très bientôt, merci beaucoup.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction ? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.